France Culture.
On vous est présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Restez cool, tout va bien se passer. Donald Trump se veut rassurant malgré la tempête mondiale qu'il a déclenchée avec ses droits de douane. La Chine et dans une moindre mesure l'Union Européenne ont décidé de riposter au président américain. Explication dans un instant avec Sébastien Paour à Washington et Fabien Cazot à Bruxelles. Une coalition pour gouverner l'Allemagne. Les conservateurs de Friedrich Merz et les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz ont conclut un contrat au moment où l'extrême droite allemande passe en tête dans les sondages. Le maire de Lyon en garde à vue, l'écologiste Grégory Doucet, est interrogé dans le cadre d'une enquête sur les chargés de mission de la ville. Ils auraient été recrutés en dehors du cadre réglementaire, estime la Chambre régionale des comptes. En l'espace de 3 jours, le tribunal de Montpellier a mis à l'arrêt 2 parcs éoliens dans l'Hérault. Les éoliennes n'étaient pas conformes aux droits de l'environnement qui protège notamment la faune sauvage. Pas de panique, affirme en substance Donald Trump sur son réseau Truth Social, alors que les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur aujourd'hui. En réalité, la guerre commerciale s'enflamme ce soir. Taxée à 104%, la Chine a riposté en appliquant un taux de 84% aux produits américains qu'elle importe. L'Union européenne aussi a décidé de répliquer. On va y revenir dans un instant. Mais partons tout d'abord à Washington, où le locataire de la Maison-Blanche appelle maintenant les entreprises étrangères à investir aux États-Unis, Sébastien Paour.
Restez cool, tout va bien se passer. Message au réveil ici sur son réseau social Truth. Trump assure que c'est le moment d'acheter, en réponse sans doute aux bourses qui baissent. Le président américain en profite aussi de nouveau pour appeler les entreprises à s'installer sur le sol américain. Il écrit « C'est le moment idéal pour transférer votre entreprise aux États-Unis parce qu'il y a ici zéro droit de douane » et il conclut « N'attendez pas, faites-le maintenant ». Pendant ce temps, son secrétaire au Trésor Scott Bessent fait le service après-vente devant l'Association des banquiers américains ici à Washington. Il assure que les droits de douane imposés par la Maison-Blanche sont un plafond à partir du moment où les autres pays ne répliqueront pas. Et il appelle le reste du monde, notamment l'Union européenne, à ne pas suivre la Chine. Seul pays, selon lui, à être entré dans une logique d'escalade, ce serait une réponse suicidaire, d'après le ministre américain des Finances.
Sébastien Paour, correspondant aux États-Unis. Après la Chine, l'Union européenne s'est donc elle aussi décidée à riposter aux surtaxes de Donald Trump. La Commission européenne a publié aujourd'hui une première liste de produits américains soumis à des représailles douanières. Une liste votée à la quasi-unanimité des 27 États membres, à l'exception une nouvelle fois de la Hongrie, de Viktor Orban, grand ami du président américain. La riposte européenne est en fait une réponse aux premières annonces de Donald Trump le mois dernier, qui visait l'aluminium et l'acier européen. La réplique aux 20% entrée en vigueur aujourd'hui contre l'UE viendra plus tard. Alors quels sont les produits américains concernés par cette première liste? Fabien Cazot nous appelle de Bruxelles.
La liste fait d'abord la part belle aux produits alimentaires. Seront notamment frappés de surtaxes à 25% les volailles américaines, leurs fameuses dindes, mais aussi leurs poulets, leurs canards, leurs riz, leurs épices, ou encore des fruits et légumes, tomates, oranges de Floride, haricots secs ou encore amandes. Hors alimentaire, les produits de maquillage ou encore les motos et les bateaux de plaisance seront taxés, tout comme du côté des biens industriels, le bois, des produits plastiques, des équipements électriques, en plus de l'acier et de l'aluminium en réponse directe aux premières mesures américaines. La riposte européenne aux deuxièmes mesures douanières entrées en vigueur aujourd'hui attendra, elle, le début de la semaine prochaine. Elle complétera sans doute cette première liste de produits en y ajoutant peut-être des mesures contre les géants du numérique ou du secteur financier américain.
Fabien Cazot, merci. Au premier jour des nouveaux droits de douane américains, les marchés financiers continuent à se replier. Environ 3% à Paris, Londres et Francfort. Wall Street, la bourse de New York, était plutôt stable à l'ouverture. Quant au pétrole, il poursuit sa chute aux alentours de $60 le baril pour le Brent de la mer du Nord. Pour affronter Donald Trump, l'Allemagne s'en remet à un gouvernement de coalition. Les conservateurs de Friedrich Merz, arrivés en tête des législatives fin février, ont trouvé un accord avec les sociaux-démocrates du chancelier sortant Olaf Scholz. Le programme a été dévoilé aujourd'hui, alors que pour la première fois, un sondage donne l'AfD, le parti d'extrême droite, en tête des intentions de vote devant les conservateurs. Pour la presse allemande, la coalition emmenée par Friedrich Merz est un peu celle de la dernière chance. David Philippot nous appelle de Berlin.
Le futur chancelier veut répondre au défi lancé par Donald Trump. Message en anglais pour lui dire que l'Allemagne aussi est de retour.
L'Allemagne revient dans la course. L'Allemagne remplira ses obligations en matière de défense. Et l'Allemagne est prête à renforcer sa propre compétitivité. Et il ne s'agit pas seulement de l'Allemagne, il s'agit de l'Europe, de l'Union européenne. Et l'Allemagne sera à nouveau un partenaire très fort au sein de l'Union européenne.
L'Europe, qu'il cite 5 fois en 10 minutes lors de sa présentation de ce contrat de coalition, un document de 143 pages dans lequel est annoncé le retour du service militaire sur la base du volontariat, un soutien complet à l'Ukraine, des mesures pour relancer une économie en récession dont un prix de l'électricité pour l'industrie, annonce aussi d'un tour de vis sur la migration, sa principale promesse de campagne.
Nous allons mieux l'organiser, la contrôler et mettre fin à la migration irrégulière. Il y aura des contrôles aux frontières nationales et aussi des expulsions de demandeurs d'asile. Nous allons lancer une offensive pour le rapatriement. Nous suspendrons le regroupement familial et la naturalisation la plus précoce possible ne sera à nouveau possible qu'après 5 ans sur le territoire allemand.
Des refoulements à la frontière, organisés, promet-il, en concertation avec les partenaires européens. Et c'est sous le signe de l'Europe que le futur chancelier, le 10e depuis la guerre, entend présider sa première cérémonie, les 80 ans de la capitulation nazie, le 8 mai, aux côtés du président français.
David Philippot, correspondant en Allemagne. Le maire de Lyon n'était pas disponible cet après-midi. L'écologiste Grégory Doucet a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds. Un événement inattendu qui survient à 1 an des élections municipales qui le verront briguer un second mandat. L'enquête judiciaire porte sur la nature des tâches effectuées par des chargés de mission de la mairie. À l'hôtel de ville de Lyon, on assure que Grégory Doucet collabore pleinement avec la justice dans une étape normale de l'enquête. Fin de citation. Florence Turmes, la justice cherche à savoir si le système des chargés de mission de la ville de Lyon respecte ou non le cadre réglementaire.
À l'origine de cette enquête, un rapport de la Chambre régionale des comptes, elle s'appuie sur le cadre réglementaire qui autorise la ville de Lyon à recruter uniquement 12 personnes sur des fonctions publiques. Mais la Chambre estime qu'en plus de ces 12 collaborateurs, une 20aine d'agents, contractuels ou fonctionnaires de la mairie, exercent en réalité des fonctions politiques. Un recrutement opéré, selon elle, en dehors du cadre légal, sans publication de l'offre de recrutement. Les agents en question seraient choisis et notés directement par les adjoints et non par les hiérarchies administratives. La Chambre régionale des comptes signale alors les faits au parquet de Lyon, qui ouvre une information judiciaire début 2024. L'enquête remonte à l'année 2016, début de la pratique incriminée. Elle couvre 3 mandats municipaux, celui de Gérard Collomb, décédé, de Georges Képénékian, qui aurait également été interrogé hier sous le régime de la garde à vue, et de Grégory Doucet qui doit à son tour s'expliquer en tant que représentant de la collectivité. Une étape logique dans le déroulement de cette enquête qui a également donné lieu à une perquisition à l'hôtel de ville. On ne saura qu'à l'issue de cette garde à vue si le parquet estime les charges suffisantes et demande sa mise en examen. D'autres cadres municipaux, dont des directeurs de cabinet ainsi que plusieurs chargés de mission, ont également été entendus en audition libre. Au lendemain du rapport, la ville a supprimé 24 postes de chargés de mission, tout en soulignant ne pas partager l'analyse de la Chambre régionale des comptes.
Explication signée Florence Turmes. Grégory Doucet, qui pourrait affronter l'an prochain au municipal Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais. Les deux hommes sont les favoris du scrutin, selon un sondage Elab pour BFM Lyon, publié cette semaine. Mais Jean-Michel Aulas, classé au centre droit, n'a pas encore formellement déclaré sa candidature. Jordan Bardella a remporté aujourd'hui une petite victoire devant la justice. Les mémoires du président du RN auraient dû bénéficier d'une campagne d'affichage dans les gares SNCF et le métro parisien, estime le tribunal des activités économiques de Paris. On s'en souvient, l'affaire avait fait grand bruit. La société qui gère les panneaux publicitaires avait rejeté cette campagne au motif que le visuel de l'affiche contrevenait au principe de neutralité politique. Fayard, l'éditeur de Jordan Bardella, avait porté l'affaire en justice. Antoine Maret, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Et la maison d'édition, désormais propriété du groupe Bolloré, a en partie obtenu gain de cause.
Oui, la justice vient de déclarer Mediatransport fautif d'avoir refusé la campagne d'affichage du livre de Jordan Bardella. Le tribunal des activités économiques de Paris, ex-tribunal de commerce, conclut, je cite, à une inexécution fautive du contrat de diffusion publicitaire. En gros, la régie a signé un contrat avec Fayard et elle ne l'a pas honoré. Selon le tribunal, elle ne pouvait pas ignorer, dès le départ, qu'il s'agissait d'un livre politique, argument avancé par Média Transport pour annuler le contrat. Le nom de l'auteur et le contexte dans lequel le livre avait été publié ne laissaient guère de doute sur la nature politique de l'ouvrage. Mais ce tribunal déboute la maison mère de Fayard de sa demande d'exécution de la campagne sous peine d'amende. La justice ne statue donc pas sur une campagne de substitution. Ce qui n'empêche pas Jordan Bardella de saluer sur X, je cite, « une belle victoire de la liberté d'expression contre les réflexes totalitaires de la gauche ». Les syndicats avaient dénoncé cette campagne publicitaire au service de l'extrême droite avant qu'elle ne soit annulée.
Antoine Marette, merci. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné aujourd'hui à 8 mois de prison avec sursis un internaute de 76 ans pour outrage et provocation au meurtre. Et cela pour un message en ligne contre la présidente du tribunal au procès de Marine Le Pen. Ce retraité de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine avait publié au lendemain du jugement un message sur son compte X avec une photo de guillotine accompagnée de la légende, je cite, « ce que mérite cette salope ». Il a également écopé d'une amende de 3000 euros. La justice française refuse de remettre à la Hongrie un militant antifasciste albanais. Rexino Abazai, alias Gino, est accusé par les autorités hongroises d'avoir attaqué des néo-nazis réunis à Budapest en novembre 2023. La justice française invoque le risque d'un traitement inhumain pour Gino s'il était incarcéré en Hongrie. Le tribunal de Montpellier récidive. Après avoir ordonné lundi la suspension pour 4 mois du parc éolien d'Omelas, il a décidé aujourd'hui de mettre à l'arrêt un autre parc éolien de l'Hérault, cette fois à Bernague. Une suspension d'un an et cela après la mort d'un aigle royal, victime des pales des éoliennes. À Omelas, le tribunal avait estimé que le parc était responsable de l'hécatombe survenue chez les rapaces de la région. Véronique Robérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ces deux affaires, le tribunal a considéré que les exploitants des éoliennes n'avaient pas respecté le droit de l'environnement.
Oui, par deux fois, il a donc condamné différentes sociétés exploitantes pour destruction d'espèces protégées, avec notamment la mort de l'unique mâle reproducteur d'un couple d'aigles royaux. Une condamnation qui correspond à une évolution du droit, explique Arnaud Gossemant, avocat spécialisé en environnement. Il a, parmi sa clientèle, il faut le préciser, des exploitants d'énergie renouvelable. Arnaud Gossemant.
Alors que pendant des années, la question des espèces protégées était peut-être sous-estimée, alors que pendant des années, l'administration s'est surtout occupée du risque pour une population d'espèces protégées plus que pour des individus, aujourd'hui, l'administration, mais aussi le juge, est concerné par la simple destruction d'un individu d'une espèce protégée. Et ça s'explique notamment parce que la disparition d'un individu peut remettre en cause toute une famille. C'est notamment le cas, par exemple, pour l'aigle. Mais c'est vrai que pour des parcs qui ont été autorisés il y a 10, 15 ou 20 ans, le niveau d'attention à cette question d'espèces protégées était moindre. Ces exploitants se voient reprocher de n'avoir pas l'autorisation de destruction, alors même que quand les parcs ont été autorisés, on ne leur demandait pas de bénéficier de cette autorisation de destruction.
Alors pour Arnaud Gossemant, ce type de conflit, défense de l'environnement contre défense de l'environnement, oiseau d'un côté, éolienne de l'autre, devrait être tranché hors des tribunaux.
Il est totalement légitime que les associations de défense de l'environnement et l'autorité de police environnementale, l'Office français pour la biodiversité, se soucient de la destruction d'individus d'espèces protégées. Mais de l'autre côté, on a aussi encouragé la création de ces parcs éoliens, justement pour lutter contre le changement climatique et donc aussi pour protéger la biodiversité. Donc oui, on a certainement besoin d'un débat de société pour savoir, voulons-nous de parcs éoliens? Et si oui, quel équilibre trouve-t-on entre l'exploitation de ces parcs éoliens qui font aussi du bien à la biodiversité et la protection des individus d'espèces protégées? Mais penser aujourd'hui qu'on peut développer les énergies renouvelables sans aucune conséquence pour la biodiversité, c'est certainement un leurre. Mais penser qu'on peut lutter contre le changement climatique sans ces parcs, c'est aussi un leurre. Donc il y a un équilibre à trouver.
Voilà, pas de jurisprudence à ce stade. Il s'agit bien sûr de décisions rendues en première instance.
Véronique Robérotte, merci pour ces explications. Revenons à présent sur le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée sur les violences sexuelles dans le milieu de la culture. Après avoir auditionné 350 personnalités pendant 6 mois, la commission a livré ce matin un constat accablant. Elle qualifie ce milieu de la culture de machine à broyer les talents où les violences sont systémiques et endémiques. Alors pour y remédier, Le rapport fait plusieurs propositions, interdire la sexualisation des mineurs à l'écran, réglementer les castings, le travail des enfants acteurs, mais aussi les scènes d'intimité dans les films, ou bien encore lancer un plan de lutte contre les violences pédagogiques. Des propositions qui concernent aussi le milieu de la musique classique, où de nombreuses affaires ont été révélées ces dernières années, Fiona Mogadam.
Milieu de la musique classique, quoique plus policé en apparence, n'est pas moins concerné, dit le rapport de la commission d'enquête. Mais en dehors de mesures visant la maîtrise des hautes scènes où les accusations d'abus sexuels et de maltraitance ont été nombreuses, il n'y a pas vraiment de recommandations spécifiques pour la musique classique. Nicolas Siméa est membre fondateur du collectif Cœur brisé agir. Il avait lui-même témoigné devant la commission.
Le focus est vraiment centré sur le cinéma, avec une idée de décliner des propositions faites dans le milieu du cinéma à d'autres secteurs. Or, il y a pas mal de situations dans lesquelles cette déclinaison n'est pas possible. Je pense notamment aux maîtrises dans lesquelles les enfants ne sont pas salariés. Il y en a beaucoup pour lesquels le droit du travail ne s'applique même pas.
Ancien élève de la maîtrise de Radio France dans les années 90, Nicolas Siméa avait raconté à la commission d'enquête y avoir été formé, entre autres, à la peur, la soumission et au chef tyrannique. Il estime avoir été entendu et cru suite à son témoignage, mais le travail sera encore long.
Il reste en fait toute l'étape de protection, c'est-à-dire de mise en place de propositions législatives, ensuite donc d'un réel encadrement, d'une réelle protection, pour éviter justement que les zones d'ombre continuent à profiter à d'éventuels agresseurs, enfin en tout cas que d'autres enfants puissent souffrir de violences. Nous, on va faire des suggestions concernant des mesures peut-être plus spécifiques.
Ce matin, lors de la présentation du rapport, le député Erwan Balanan, rapporteur de la commission d'enquête, a annoncé sans plus de détails un travail collectif sur une prochaine proposition de loi.
Fiona Mogadam, merci. On connaît désormais le calendrier des prochaines panthéonisations décidées par Emmanuel Macron. L'ancien résistant et ministre de la Justice, Robert Badinter, entrera au Panthéon le 9 octobre prochain. Puis ce sera au tour de l'historien et résistant juif Marc Bloch le 16 juin 2026. Deux personnalités dont les noms étaient plébiscités pour rejoindre le temple républicain. Depuis son arrivée à la tête de l'État, Emmanuel Macron a déjà fait entrer quatre autres grandes personnalités au Panthéon. Simone Veil, Maurice Genevoix, Joséphine Baker et Missak Manouchian. Alors comment expliquer cette frénésie de panthéonisation? Je vous propose à ce sujet l'analyse d'Éric Anceau, historien et professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine.
Quand on regarde les chefs de l'État, celui qui de très très loin aura le plus panthéonisé, lorsque s'achèvera son deuxième mandat, 2027 au plus tard, c'est le président Macron. Alors à cela, peut-être plusieurs raisons, un goût, une appétence particulière pour l'histoire, la volonté également sans doute de rééquilibrer les entrées au Panthéon, et une variété bien évidemment des personnalités qui sont panthéonisées, et c'est heureux me semble-t-il, et puis le fait que voilà, on utilise l'histoire parce qu'on a peut-être moins de pouvoir par ailleurs. Le roi est nu, le président est nu, et donc le pouvoir qu'il a perdu devient aujourd'hui un pouvoir beaucoup symbolique. Qui plus est, ce type de commémoration qui est très largement consensuel par le fait des personnes qui sont choisies permet de regagner quelques dixièmes de points de popularité. Mais d'un autre côté, encore une fois, elles sont justifiées. C'est des personnalités quand même qui sont incontournables, indéniablement. Alors simplement, il faut l'utiliser avec discernement, c'est vrai. Ce qu'avait fait, par exemple, François Hollande de faire trois panthéonisations de résistants, de sensibilités différentes, deux femmes et un homme, avait été, je trouve, assez habile, parce qu'en fait, c'est derrière les individus un événement symbolique qu'il voulait honorer. Donc, pourquoi pas agir comme ça? Et je constate que Emmanuel Macron a choisi une autre voie en faisant des panthéonisations, comment dirais-je, à échéance variable.
Emmanuel Macron et le Panthéon, l'analyse d'Éric Anceau, l'historien qui répondait à Adrien Toffolé. On termine ce journal avec un mot du temps. Demain, le printemps continue sur presque tout le pays, hormis quelques nuages bas sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'au nord de la Seine. La pluie pourrait revenir en soirée sur les Pyrénées. Demain matin, il fera entre 3 et 10 degrés en général. L'après-midi, les températures iront de 11 à 25 degrés selon les régions. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Marie-Claire Oumabadi.